Seigneur notre Dieu, comme à ton habitude, tu es un pédagogue céleste et tu nous as parlé déjà ce matin à travers les échanges. Merci que ce que nous avons reçu soit écrit dans notre cœur, que ça nous accompagne durant toute cette semaine et au-delà. Je te prie de m'accompagner dans ces paroles que nous allons partager ensemble parce que tout est basé sur ta parole. Que tu m'aides à ce que j'aille à l'essentiel, sans détour, mais que mes frères et sœurs ne gardent que ce que tu as envie qu'ils gardent dans leur cœur. Veuillez me pardonner par avance si je faillis dans mon développement, dans mes paroles, et je sais qu'en toi nous sommes lavés dans ton sang précieux. Que ta volonté se fasse. Amen. Donc je vais partager avec vous, donc nous allons continuer notre méditation sur l'évangile selon Marc, de Marc, et je vais faire la suite de notre frère Toby. Et nous sommes dans le chapitre 9 et nous allons évoquer ensemble ce phénomène surnaturel, la transfiguration. Je peux utiliser tous les mots que vous voulez, on ne pourra jamais décrire réellement ce que c'est. On met des mots, c'est une lumière éclatante, etc., tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est tellement surnaturel, tellement céleste, que même nos mots ne suffisent pas, les mots ne suffisent pas pour décrire ce que les trois disciples ont vu avec le Seigneur. Ils ont vu le Seigneur dans son éclat céleste. Alors je lis avec vous Marc chapitre 9, versets 1 à 13. Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulant sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire. L'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour, et ils ne vinrent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par « ressuscité des morts ». Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toute chose. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu selon qu'il est écrit de lui. Voilà notre passage. Il y a vraiment beaucoup à dire, donc je ne vais pas partir dans une méditation où il y aura beaucoup de pensées personnelles subjectives, et j'ai essayé d'aller à l'essentiel en priant le Seigneur pour que nous gardions dans notre cœur que ce qu'il a envie qu'on garde. Dans la vie chrétienne, il existe des moments particuliers, et certainement vous en avez vécu, hein. Souvent des moments discrets mais profondément marquants, où Dieu nous accorde des fois une lumière spéciale, personnelle. On reçoit quelque chose du Seigneur, on essaie de l'exprimer autour de nous. Cela peut être une parole reçue, dans la prière, dans le silence, en marchant, tout seul chez soi. Une paix inattendue des fois qu'on reçoit dans le cœur, on ne comprend pas. Dans la tempête, on a une paix. On essaie de l'exprimer. Une conviction intérieure des fois, j'ai reçu une conviction, j'essaie de partager, mais on ne comprend pas. En fait, tout cela, c'est un signe que Dieu est là et qu'il nous parle. Ces moments ne durent pas toujours, ne durent pas longtemps. Souvent, c'est m'est arrivé, pas toujours. mais ça dure pas longtemps. Ils sont parfois brefs et qui ne durent pas. Et pourtant, ils nous laissent une trace durable. On s'en rappelle. Pourquoi Dieu agit-il ainsi? La question que je me suis posée. Pourquoi il fait comme ça? Pourquoi ne nous maintient pas-t-il en permanence de cet état? On voudrait garder cette paix tout le temps, cette conviction, cette parole que nous avons reçue. On voulait vivre, que ça reste avec nous. La réponse que nous donne l'Évangile est simple et exigeante. Dieu nous donne une certaine lumière intérieure, souvent brève, pour nous préparer souvent à un enseignement plus grand. Il veut en fait nous emmener à un objectif autre que ce que nous voulons garder en nous cette paix. C'est qu'il nous prépare. Dieu, le Seigneur, est pédagogue. Et bien la transfiguration est précisément cela. Une lumière donnée avant la croix. Donc l'objectif c'est quoi? C'est la croix. Mais il a donné ce message juste avant la croix. Une révélation accordée avant la nuit. Une révélation avant la souffrance. Une révélation avant l'épreuve. Une révélation avant l'humiliation. Dieu est pédagogue. Juste avant ce passage, Jésus annonce clairement sa passion. Il l'a annoncé à ses disciples. Il leur dit dans Marc chapitre 8, verset 31-32, juste avant, il leur dit qu'il va souffrir, qu'il va être rejeté, qu'il va mourir. Même Pierre s'y opposait, vous vous rappelez? Pierre s'y opposait même violemment. Les disciples, dans ce cas, sont perdus. Leur Messie ne correspond plus à leurs attentes. Ils rêvaient de puissance, de victoire, de reconnaissance, et voilà Jésus leur annonce sa mort. Sa souffrance, il leur annonce la croix. Alors Jésus fait quelque chose de décisif. Il emmène trois disciples. Et notez bien, il dit trois disciples à l'écart. Le Seigneur ne se révèle jamais dans le brouhaha. On veut que ce soit le spectacle. Non, il les a mis à l'écart, dans le silence de la montagne, pour se montrer à eux. Il les emmène à l'écart, sur une montagne, pour leur montrer la gloire, et que cette gloire existe vraiment. Mais que cette gloire ne se comprend qu'en passant par la croix. Il faut lire la transfiguration à la lumière de la croix, mais pas séparément. S'il y a transfiguration, c'est qu'il y a la croix. Et s'il y a la croix, il y a la transfiguration. Et les deux vont ensemble. Et Jésus commence par une parole solennelle. Il leur dit, dans le verset 1, « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Il part tout simplement de la transfiguration qui attend. Il leur dit, « Je vous promets, vous allez voir la gloire avant de mourir. » Et c'est la promesse qui va être accomplie tout de suite après. Cette phrase n'est pas abstraite. Elle n'est pas théorique. Elle n'est pas théologique. Elle annonce quelque chose de concret, de visible, de réel. Six jours plus tard, cette promesse s'accomplit. Sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean voient ce que personne n'avait vu encore. Ils ont vu Jésus tel qu'il est, dans sa réalité divine. C'est pas donné à tout le monde. Quel privilège ces trois disciples ont eu. Ils voient le royaume non pas comme un concept, ou comme une théologie, comme une dispute de mots, ou comme des écoles. Non, ils ont vu le royaume dans sa réalité. Ils ont vu le royaume comme une présence réelle. Ils comprennent, sans encore pouvoir l'exprimer, que Jésus n'est pas seulement un maître spirituel, non pas seulement celui qui dispense des diplômes de théologie, que sais-je. C'est pas seulement un ensemble de concepts. Pas du tout. Il découvre Jésus en tant que fils de Dieu. Il découvre Jésus en tant que fils porteur de la gloire même de Dieu. Quel privilège! Dieu agit souvent ainsi. Il commence par une promesse. Souvent comme ça. On reçoit une promesse. Nous, on est pressés. Il donne une promesse. Après, il prépare le cœur avant de révéler sa gloire. Soyons patients. Il annonce avant de se manifester ou de manifester sa gloire. Soyons patients, mes frères et sœurs. Marc précise 6 jours après. 6 jours après. Le chiffre 6, c'est pas un hasard. Pourquoi pas 3 jours, 2 jours, un jour, 15 jours, 6 jours après. Ce détail est essentiel. Le Seigneur veut nous enseigner quelque chose quand il dit 6 jours après. Tout est en rapport avec sa parole. Les 6 jours, rappelons-nous, les 6 jours rappellent les 6 jours de la création. Les 6 jours n'ont de sens que parce qu'il y a le 7e jour. La semaine n'a de sens parce qu'il y a le 7e, c'est le jour du repos, c'est le jour du Seigneur. Vous voyez? 6 jours de patience, 6 jours d'attente. Pourquoi? Parce qu'au bout, il y a le 7e. Le chiffre 6 rappelle aussi les 6 jours durant lesquels la nuée couvrait le Sinaï avant que Dieu parle à Moïse. Il est question de 6 jours. Je vous invite à lire Exode chapitre 24. 6 jours d'attente et surtout 6 jours de silence. 6 jours de préparation. Ça, c'est un enseignement pour nous. Dans notre communion avec le Seigneur, soyons patients. On veut tout vite. Oh là là, j'ai envie de vivre une vie chrétienne. Dans le silence, je suis seul avec le Seigneur. Ça me rappelle la vie de prière. Avons-nous une vie de prière? Dans le silence, à l'écart, juste le Seigneur et moi. Pas de précipitation, mes frères et sœurs, mais un cheminement intérieur. Après, on a les 3 disciples. Pourquoi pas les autres? 3 disciples. Pierre, Jacques et Jean. Et d'ailleurs, les 3, on les voit souvent dans des phénomènes, je dirais, surnaturels, tout ça. Et souvent, il les emmène avec lui. Jésus ne prend pas les 12, il prend 3. Pourquoi? Eh bien, on sait que Pierre représente, certes, l'homme de Dieu, mais une foi fragile. N'oublions pas, Pierre, ça représente la foi fragile. N'oublions pas qu'il l'a reniée. Il représente la foi fragile. Il représente l'impulsivité. C'est nous ça, tout ça, non? Mais il représente aussi un homme sincère, mais encore dans la chair. Il est en train de nous parler par Pierre à chacun de nous. Le Seigneur veut nous emmener dans la transfiguration. Mais il nous demande la patience, la vie de prière, une communion intime avec lui. Dans nos faiblesses, nous serons toujours faibles tant qu'on est dans ce corps. Après, on a Jacques. Jacques représente l'espérance courageuse. N'oublions pas que Jacques est mort martyr. Jacques, c'est le témoignage de celui qui donne sa vie pour le Seigneur. Il est mort parce qu'il était chrétien. Est-ce que nous sommes fiers de notre foi? Est-ce que nous avons cette conviction que malgré que le monde nous rejette, le Seigneur ne rejette pas, mais il y a un prix à payer? Et après, on a Jean. Jean, il représente quoi? Ben, l'amour. On dit même que c'est l'apôtre de l'amour, Jean. Jean, c'est l'amour contemplatif. Jean aussi, c'est la profondeur spirituelle. Et les 3, ces 3 dimensions, tout simplement, mes frères et sœurs, foi, espérance et amour, eh ben, sont nécessaires pour accueillir la gloire de Dieu. En tant que chrétien, il y a 3 dimensions. Et à travers Pierre, Jacques et Jean, nous les avons. D'abord, la patience des 6 jours, parce qu'il y a le 7e jour, mais la foi, l'espérance et l'amour. Dans toute la Bible, maintenant, dans toute la Bible, ces 3 dimensions sont présentes. Et après, nous avons la montagne. Il les a amenés dans la montagne. Dans toute la Bible, la montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu. On le sait quand on lit la Bible, la montagne c'est le lieu où Dieu nous rencontre. On ne voit pas la gloire depuis la plaine. Non, il faut aller à la montagne. Il faut monter. Et monter c'est quoi? C'est se séparer du bruit. C'est s'isoler. C'est quitter le monde. Tout cela c'est notre cheminement chrétien. Il y a un prix à payer. Notre cheminement chrétien, c'est porter sa croix. Et ça coûte. C'est quitter les certitudes, nos convictions. C'est accepter l'effort intérieur d'aller vers le Seigneur. Encore une fois, une vie de prière. Dieu ne se révèle pas dans la dispersion, dans le brouhaha, mais dans la mise à part. On se met à côté. Et ça, c'est tout un apprentissage dans la vie chrétienne. Et au verset 3 à 4, nous rentrons directement dans la transfiguration. Les vêtements de Jésus deviennent d'une blancheur éclatante. Je ne veux pas ajouter description à d'autres descriptions parce que ça sera réducteur de toute façon. Ce n'est pas une lumière extérieure. C'est ça le plus important que je trouve. C'est une lumière qui jaillit de lui-même. Il est la lumière. La lumière, c'est pas la conséquence. Jésus est la lumière. Les disciples ne voient pas un autre Jésus, pas du tout. Mais ils voient le vrai Jésus, qui est habituellement voilé par l'humilité et l'incarnation, et pour nous, souvent voilé par la théologie. Je ne rejette pas la théologie. Mais si on donne tellement d'importance juste à la théologie, à l'étude, on le voile et on oublie sa gloire qui se voit dans la simplicité. Cette gloire est celle de la résurrection. Elle est donnée avant la croix pour que la croix ne soit pas un scandale insupportable. Et puis apparaissent Moïse et Élie. Moïse et Élie qui apparaissent. Pourquoi pas les autres prophètes? Moïse et Élie. Eh bien, dans le judaïsme, même dans le christianisme, Moïse représente la loi. Et Élie représente les prophètes. Et disons la loi et les prophètes, on est en train de dire c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Toute l'écriture qui est la loi et les prophètes, l'Ancien Testament, c'est la loi et les prophètes. Toute l'écriture est là, toute l'histoire du salut converge vers Jésus. Elle est en train de nous dire que la loi et les prophètes tendent vers Jésus. La Bible parle de Jésus. Et la preuve, Élie et Moïse apparaissent pour dire voilà Jésus. Et de quoi il nous parle? Il nous parle de sa croix. Il nous parle de la mort et de la résurrection. Comme je vous le lirai tout à l'heure dans Luc, il est bien clair qu'ils sont venus pour parler de son sacrifice à la croix. Il parle avec lui. Luc nous dira qu'il parle de son exode. Ah, Luc dit, parle de l'exode, de sa passion. Luc chapitre 9, verset 31, je vous le lis. Luc 9, 31, je lis à partir de 30. C'est le même récit, mais raconté par Luc. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ. D'autres traductions nous disent de son exode, d'autres nous disent de sa croix, de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. La parole de Dieu, l'écriture de la Genèse jusqu'à début des évangiles, nous parle de Jésus et de la croix, d'où la centralité de la croix, n'oublions pas. La gloire et la croix ne sont jamais séparées. Puis Pierre, dans les versets 5 et 6, prend la parole, comme souvent, c'est celui qui se mettait toujours en avant. Il veut bâtir trois tentes. Tout de suite là. On va mettre trois tentes. On va mettre Moïse, Élie et Jésus. Déjà là, quelle erreur. Déjà là, humainement, il était en train de mettre tout le monde au même niveau. Jésus, Moïse, Élie, c'est les mêmes. Je mets une tente pour tout le monde. Pour chacun. Son intention est sincère. Oui, humainement, est sincère. Et ça nous parle à nous. Mais elle est révélatrice d'une tentation profonde. Elle est chez nous. S'installer dans la gloire sans passer par la croix. Pierre, il est en train de dire, restons ici, dans la montagne. On est bien. On est super bien, la gloire, tout. Non? Moïse et Élie leur dit, ils ont entendu dire, non, cette gloire annonce la croix. Allez, descendez, voilà la croix, là. Nous, on veut pas y aller. On veut rester dans cette gloire. Le bien-être, vous voyez? Donc Pierre, déjà là, il ne veut plus bouger. Il était tellement bien qu'il veut y rester. Pierre voudrait figer l'instant. Il voulait arrêter le temps. Éviter la descente. Éviter la souffrance. Il ne veut pas tout ça. Mais on ne demeure pas. On ne demeurons pas sur la montagne. La vie chrétienne, mes frères et sœurs, n'est pas une fuite hors du monde. N'est pas une recherche de satisfaction de soi. La vie chrétienne est un chemin qui coûte, et c'est pas pour rien que le Seigneur nous donne porter sa croix. La vie chrétienne est un aller-retour. La montagne, la plaine, la montagne, la plaine. Et on avance. Oui. Recevoir la lumière, redescendre pour aimer, servir, souffrir, parfois, et remonter, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on avance. Et la suite nous dit que la nuée enveloppe les disciples. La nuée enveloppe les disciples. C'est le signe de la présence de Dieu. Comme au Sinaï, au temple, au désert. C'est un phénomène qui est déjà passé. On peut le lire dans l'Ancien Testament. Puis la voix du Père retentit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. J'insiste sur écoutez-le. Cette parole est centrale. Elle signifie, ce n'est plus Moïse que vous devez écouter. Ce n'est plus Moïse que vous devez écouter. Ce n'est plus Élie. Pierre, les amis, au même niveau. Hein. Ce n'est pas vos attentes. Ce n'est pas vos raisonnements qui vont disparaître avec vous. Écoutez Jésus et que Jésus seul. Même quand il parle de souffrance, même quand il parle de renoncement, même quand il parle de croix. La foi chrétienne commence ici, dans l'écoute obéissance du Fils. Mes frères et sœurs, écoutant le Seigneur. En redescendant, Jésus impose le silence jusqu'à la résurrection. Pourquoi? Parce qu'avant Pâques, les disciples n'auraient pas compris. Parce qu'une gloire sur la croix devient une illusion dangereuse. Et annoncer la gloire seule, c'est le message à 50%, donc une demi-vérité, ce n'est pas une vérité. Il fallait attendre que la croix, qu'il passe par la croix. Et c'est parce que le témoignage doit être complet, comme je viens de vous dire, la croix doit être réalisée, accomplie. Et cela nous concerne aussi. Il arrive que Dieu nous confie une lumière, une parole, une expérience. Et tout de suite, on commence à crier de partout. Peut-être il nous dit, attends, j'accomplis, on verra. Non pas pour être proclamé immédiatement, mais pour être gardé, médité, intériorisé, dans la patience, dans le silence, dans la prière, jusqu'à ce que le Seigneur permette qu'elle porte des fruits, selon sa volonté à lui. Les disciples, après, posent des questions au Seigneur Jésus par rapport aux scribes, qui disaient que, mais la Bible nous dit, ils ont dit que l'Écriture dit que Élie doit venir avant. Les disciples évoquent dans ce passage la prophétie de Malachie. Alors, tout dépend quelle Bible vous avez. La Bible hébraïque, la division hébraïque, en fait, il n'y a que 3 chapitres. Donc, on peut prendre la référence, Malachie 3, versets 23 et 24. Mais si vous avez une Bible seconde, on a divisé ce livre en 4 chapitres. Dans ce cas-là, vous prendrez le Malachie 4, chapitres 5 et 6. Mais je vous lis ce qui est écrit. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant qu'on arrive le jour de l'Éternel. » Malheureusement, dans les traductions récentes, on ne trouve pas le mot Élie. Et c'est dommage. « Voici, je vous envoie le prophète. » Dans vos Bibles, peut-être, dans Malachie 4, 5, 6, peut-être vous avez le prophète, mais il n'y a pas Élie. Mais dans l'Écriture, dans la Bible hébraïque, il est bien précisé « Élie ». Le prophète Élie, le prophète avant que n'arrive le jour de l'Éternel. Donc les disciples, les scribes, en fait, évoquent ce passage dans la Bible comme une contradiction, en fait, en train de... Et Jésus confirme l'Écriture, mais il rectifie. Il confirme, il dit, oui, Élie devait venir pour restaurer les cœurs, et il est déjà venu en Jean-Baptiste. En effet, Jean-Baptiste a préparé le chemin. Vous savez quoi? Est-ce que vous avez Élie dans le passage? Là, tu l'as? Ah ben oui, très bien. Très bonne traduction. Mais certains passages, certaines Bibles, il en parle de prophète, mais il n'y a pas Élie. Oui. Donc, Jean-Baptiste a préparé le chemin. Par quoi? Par la repentance, par la vérité, par le courage prophétique. Et comme lui, Jésus sera rejeté. Le chemin de Dieu passe par la conversion avant la gloire. Pour qu'il y ait la gloire, il y a la conversion. Et la conversion, c'est la repentance. Oui, tout est lié. Repentance, gloire, croix, et la croix nous emmène à la gloire. Et au centre, il y a toujours le Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité. En conclusion, pourquoi Jésus montre-t-il sa gloire avant la croix? Il n'avait pas besoin de le montrer. Après la résurrection, il se montre dans la gloire. Il l'a fait avant la croix. Parce que la gloire ne supprime pas la souffrance. Donc, mes frères et sœurs, si vous recevez une paix intérieure, une parole, que sais-je, eh bien, vous saurez que la croix sera toujours là. Dieu permet toujours l'épreuve, permet toujours un renoncement, permet toujours cet instrument qui nous dépouille de nous-mêmes. C'est le chemin de tout chrétien normal. La croix nous donne la force d'avancer avec le Seigneur. La transfiguration nous enseigne 3 vérités fondamentales. D'abord, 1, Jésus est le Fils de Dieu, et c'est la parole à écouter. et toujours revenir à Jésus et à sa parole. Ça, c'est très important pour nous chrétiens. Deux, la croix est le chemin de la gloire. Il n'y a pas de vie chrétienne sans porter sa croix. Trois, Dieu nous donne des montagnes pour affronter les vallées. Soit on préfère rester dans les vallées, c'est une vie chrétienne vacillante. Au moins, à la moindre tentation, à la moindre difficulté, on va se sauver. On va abandonner le Seigneur. Et la montagne, le Seigneur est en train de nous dire, allez-y, une vie de prière, allez sur la montagne. Je vous attends. Et c'est là que Dieu nous attend. Avons-nous tendance, comme Pierre, à vouloir la gloire sans la croix? C'est très tentant pour la nature humaine. Avons-nous reçu une lumière que Dieu nous demande de garder dans notre cœur? Avons-nous descendu la montagne pour vivre notre foi dans le quotidien? Écoutons-nous vraiment Jésus ou écoutons-nous encore d'autres voix? La transfiguration nous appelle à entrer dans la vie chrétienne adulte. Voir Jésus tel qu'il est, l'écouter et marcher avec lui, même quand le chemin descend vers la vallée. Je termine par cette prière. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, ouvre nos yeux pour voir ta gloire. Ouvre nos oreilles pour écouter ta voix. Ouvre notre cœur pour te suivre dans l'obéissance et la confiance. Que la lumière de ta transfiguration nous éclaire et nous soutienne. Et que la force de ton amour nous conduise sur le chemin de la croix et de la résurrection. C'est une prière qui n'est pas de moi, mais j'avais envie de vous la dire. Que le Seigneur nous aide. Amen.